Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 95, Daf Tzadik He. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond, Midrabananhu, le fait que l'habit garde son impureté lorsque sa majorité est déchirée, s'il reste une largeur équivalente à la largeur d'un foulard, c'est uniquement Midrabanan. Ils ont décrété cette impureté de peur qu'ils ne déchirent pas la majorité de l'habit, mais Minatora, dès que la majorité de l'habit est déchirée, il perd son impureté. Alors ici, puisqu'il s'agit d'accomplir une mitzvah de laver l'habit dans la cour du sanctuaire, les Chachamim ont levé leur décret, car il n'y a pas le choix, comme nous l'avons expliqué. Il déchirera donc la majorité de l'habit, tout en laissant une largeur équivalente à celle nécessaire pour un foulard, et il le fera rentrer dans la cour du sanctuaire pour le laver. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « L'icheres sheyatsa » etc. Si un ustensile d'argile qui a servi à cuire la viande d'un sacrifice est sorti de la cour du sanctuaire, on le refera rentrer pour le briser dans la cour du sanctuaire. S'il est devenu impur entre-temps, il faudra le trouer pour qu'il perde son impureté, puis il le fait rentrer pour le briser à l'intérieur de la cour du sanctuaire. Alors la question se pose, s'il le trouve pour qu'il perde son impureté, Kli Amar Achamana, la Torah a dit, et elle a parlé donc d'un ustensile qu'il faut briser, s'il est troué, Velav Klihu, ce n'est plus un ustensile. La Gemara répond, Shenikav Be Shoresh Katan, il s'agit d'un cas où la taille du trou qu'il fait est celle suffisante pour laisser passer une petite racine, et comme l'explique le Tosfot, Minatora, ce trou est suffisant pour que Minatora, son impureté, disparaisse. Cependant, puisqu'il peut servir encore pour y mettre des solides, il est toujours considéré comme étant un ustensile tant que le trou n'est pas suffisant pour y laisser passer des olives. Ce qui est d'ailleurs aussi la mesure pour que même Midrabanan, son impureté, disparaisse. Donc, puisque Minatora, l'impureté de cet ustensile a disparu, mais il a quand même toujours le statut d'ustensile, par la suite, il pourrait même devenir impur s'il décide de l'utiliser uniquement pour des solides. Ce sera considéré un ustensile qu'il brise donc à l'intérieur de la cour du sanctuaire. Nous noterons que selon la version que nous avons sous les yeux de l'interprétation de Rashi, selon lui, le trou qu'il faut faire dans cet ustensile d'argile doit être de la taille qui permet de faire rentrer un liquide ou de l'eau si on place cet ustensile sur le liquide. Ce qui est nettement plus petit que la taille d'une racine, et c'est effectivement la taille du trou que nous voyons dans Masechet Kelim qui fait disparaître l'impureté d'un ustensile qui est utilisé pour y mettre des liquides. Cependant, puisque cet ustensile peut servir à y mettre des solides, tant que le trou n'est pas de la taille d'une olive, il a donc le statut d'ustensile qu'on fera rentrer dans la cour du sanctuaire pour le briser. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Kline Chochet, etc., Porto, etc. » Si un ustensile en cuivre qui a servi à cuire de la viande d'un sacrifice est sorti de la cour du sanctuaire, il faudra le faire rentrer à nouveau pour le frotter et le laver. S'il est devenu impur entre-temps, il faudra faire un grand trou de la taille d'une olive pour qu'il perde son impureté. Alors la Gemara demande « Veha lav klihu » Pourtant, s'il est troué de cette manière, ce n'est plus un ustensile. Il ne peut plus donc accomplir cette mitzvah de frotter et de laver cet ustensile dans la cour du sanctuaire. La Gemara répond, Deratzif Martzif, après l'avoir troué, il répare le trou en frappant avec un marteau pour rapprocher les bords du trou. Ainsi, il sera passablement réparé, il aura toujours le statut d'ustensile, il pourra donc accomplir ce commandement de frotter et de le laver dans la cour du sanctuaire. Et comme l'explique le Eben Ha'ezel dans Perekret de Halachot de Maaseh HaKorbanot, Halakha Kafalef, puisque cet ustensile n'avait pas perdu entièrement sa forme, nous ne pourrons pas considérer qu'il s'agit d'un nouvel ustensile. Donc finalement, il pourra accomplir cette mitzvah correctement. Amar Resh Lakish, mais il l'habit en laine bleu azur, utilisé par le Kohen Gadol, à propos duquel il y a une interdiction de le déchirer, sur lequel a giclé du sang d'Akorban Khatat, et qui est sorti de la cour du sanctuaire, Machniso Bepachot Mishalosh Al Shalosh. Il fait rentrer un morceau de cet habit d'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts, soit 7 cm sur 7 cm, ou Mechabso, et il le lave ainsi dans la cour du sanctuaire. car d'une part il n'a pas le droit de le déchirer, et d'autre part il est interdit de faire rentrer quelque chose d'impur dans la cour du sanctuaire. Mishum Sheneemar, justement la Gemara précise, puisque le pasuk dit, dans Shemot Kafred, concernant cet habit, Loïkarea, il est interdit de le déchirer. Motive Rav Adabarahava a opposé à Resh Lakish la Mishnah suivante, dans Maseret Kelim Perek Kafret Mishnachet, Ha'avim Veharakim, en ce qui concerne les tissus épais et le feutre, En Bahen Mishum Shalosh al Shalosh, il n'y a pas cette mesure de trois doigts sur trois doigts, ce qui veut dire un morceau de tissu épais ou bien du feutre d'une taille de trois doigts sur trois doigts n'a pas d'impureté, car en fait ils ne peuvent servir à rien, ni même pour rapiécer un habit. Donc la taille minimale pour qu'il soit impur, c'est de 3 tfachim sur 3 tfachim, soit environ 30 cm sur 30 cm. Puisque cet habit en bleu azur porté par le Kohen Gadol était composé avec des fils épais composés de 12 fils, donc finalement il a le statut d'habit épais pour lequel il n'y a pas d'impureté pour une taille de 3 doigts sur 3 doigts, pourquoi doit-on se restreindre à ne faire entrer qu'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts? On pourrait même se permettre de faire entrer un morceau d'une taille inférieure de 3 tfachim sur 3 tfachim. L'agma répond, Agav avihen chashive. Il est vrai que tout seul, un morceau de tissu épais par exemple, de 3 doigts sur 3 doigts, n'a pas d'importance, mais lorsqu'ils sont attachés à leur habit d'origine, donc ici, puisqu'on n'a pas déchiré un morceau de ce me'il, mais il est resté entièrement attaché à l'habit, cette taille de 3 doigts sur 3 doigts est suffisamment importante pour que, concernant un morceau de cette taille, il y aura l'interdiction de le faire entrer dans la cour du sanctuaire. C'est pourquoi il faudra se restreindre à ne faire entrer qu'un morceau d'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts. Ainsi, il est considéré sans importance. Il n'a donc pas transgressé l'interdiction de faire entrer quelque chose d'impur dans la cour du sanctuaire. La Gemara demande, comment peut-on effectuer ce lavage dans la cour du sanctuaire? Vehabae Shivat Sammanim. Pourtant, il faut sept sortes de détergents décrits dans Masechet Nida Dav Samechal Efamudbet. Il s'agit entre autres de crachats provenant d'une personne à jeun et d'urine, de la lin et deux sortes d'aloès et d'autres sortes de plantes. Ces sept sortes de détergents sont nécessaires pour laver le sang du korban chatat. D'Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Dam chatat umarot negaim, le sang d'un korban chatat que la Torah a exigé de laver et les plaies de lèpre qui se déclarent sur l'habit que la Torah a aussi exigé de laver, tzrichin shivat sammanim, nécessite les sept sortes de détergents décrits dans Maseret Nida Daf Samech Alef Amud Bet. Vetania, et d'autre part, il est enseigné concernant l'encens qu'en fait on aurait dû utiliser de l'urine pour la confection de cet encens. Cependant, la Braïta dit, et là she'en machnisin meraglaim lamikdash. Cependant, on ne fait pas rentrer de l'urine dans le sanctuaire, car c'est un manque de respect. C'est pourquoi d'autres ingrédients ont été choisis pour le remplacer. En tout cas, nous voyons dans cette Braïta qu'il est interdit de faire pénétrer de l'urine dans le sanctuaire. Comment peut-on laver le sang du korban chatat dans la cour du sanctuaire, alors que, comme nous l'avons vu précédemment, il faudra, entre autres, utiliser de l'urine?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadehe Amud Bet. Vechitema, et si tu veux me répondre, Demavla lehu be'ade shivva samanim, qu'on mélange cette urine avec les sept sortes de détergents, ou ma'avar lehu lekulhu kechad, et il les fait passer ensemble, donc il utilise les sept sortes de détergents mélangés pour laver cet habit. Vatnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Nida Daf Samerbet, et Eviran Shelo Kesidran. S'il a fait passer, donc il a utilisé ces sept détergents, mais pas dans l'ordre décrit par la Mishnah, Oshe Evir Shivatan Kechad, ou bien il a fait passer les sept détergents ensemble mélangés, Loa Savelo Kloum, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il s'agit là-bas dans la Mishnah de déterminer si une tache quelconque sur un habit est du sang ou de la peinture par exemple. Il faut donc procéder au lavage tel que c'est décrit dans la Mishnah. en utilisant chacun de ces 7 détergents, un après l'autre, selon l'ordre décrit par la Mishnah. Sinon, il n'y aura pas de preuve, on ne pourra pas déterminer s'il s'agit de sang ou de peinture. En tout cas, nous voyons dans la Mishnah que la manière de laver le sang, c'est en utilisant ces 7 sortes de détergents, un après l'autre, selon l'ordre décrit par la Mishnah. Finalement, on ne pourra pas mélanger l'urine avec les autres détergents. Vechi tema demavla lehu bead echad misammanim. Et si tu veux me répondre qu'on mélange l'urine avec un des détergents et chacun des autres détergents sera utilisé tout seul. Veha pourtant tzarich le kaskes shalosh pamim bechol echad vechatnan. La Mishnah enseigne clairement que pour chacun des détergents appliqués sur l'habit ou la tâche en question, il faut frotter 3 fois l'habit. Nous voyons donc que chacun des détergents doit être appliqué sur l'habit séparément. L'agma répond, et là plutôt de mavla lehu berok tafel, il mélange cette urine avec du crachat provenant d'une personne à jeun. De amar Resh Lakish, car Resh Lakish dit, rok tafel tzarir sheye im kol echad ve'echad. Il faut que, avec chacun de ces détergents, il faut qu'il y ait mélangé du crachat provenant d'une personne à jeun. Donc en fait, chacun de ces détergents est appliqué séparément sur l'habit. Cependant, puisque Resh Lakish nous enseigne qu'avec chacun de ces détergents, il doit y avoir mélangé du crachat, à part la première application qui est uniquement du crachat provenant d'une personne à jeun, finalement, il ne transgressera pas l'interdiction de faire pénétrer de l'urine dans la cour du sanctuaire, puisqu'il est mélangé avec du crachat. Nouvelle Mishnah. À partir de maintenant, la Mishnah et la Gemara vont décrire la mitzvah qui consiste à briser l'ustensile d'argile qui a servi à cuire les sacrifices et la mitzvah de frotter et de laver les ustensiles de cuivre qui ont servi à la cuisson de la viande des sacrifices. Alors la Mishnah dit « Echad shebishelbo » soit l'ustensile dans lequel on a cuit la viande du sacrifice « Ve'echad sheira le tochoroteach » soit celui dans lequel il a versé le jus de cuisson, par exemple, bouillant, echad kocher kodashim vechad kodashim kalim, soit s'il s'agit de sacrifice d'une sainteté suprême, soit s'il s'agit de sacrifice d'une sainteté légère, lorsqu'il s'agit d'ustensiles de cuivre, teunin merika ou shtifa, ils ont besoin d'être frottés et d'être lavés, comme cela sera décrit par la suite. Rabbi Shimon Omer, kodashim kalim, des sacrifices d'une sainteté légère. Donc, les ustensiles qui ont servi à utiliser et à cuire la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère, entounin mirika ou shtifa, n'ont pas besoin d'être frottés et d'être lavés. Il est vrai qu'il faut les ébouillanter pour faire sortir de cet ustensile le jus de la viande du sacrifice qui s'y est imprégné. Cependant, comme la Gemara l'expliquera, ceci peut se faire avec n'importe quel liquide bouillant et pas nécessairement avec de l'eau bouillante. Tandis que pour la mitzvah de frotter et de laver tel que la Torah l'a décrit, il faut le faire impérativement avec de l'eau bouillante. Donc c'est cela que Rabbi Shimon dit, que cela n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un sacrifice d'une sainteté légère. Alors la Gemara dit là-dessus, Tanur Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Lorsque le Passouk dit dans Vaikravav, concernant la mitzvah de frotter et de laver les ustensiles qui ont servi à la cuisson de la viande d'un sacrifice, le Passouk dit, Asher Tevu Shalbo, celui dans lequel on aura cuit la viande du sacrifice, il faudra le frotter et le laver. La Braïta demande, En Liela, nous n'avons appris de là que chez Bichelbo, l'ustensile dans lequel on a cuit la viande du sacrifice, ira le tochor oteach. Si on a versé dans cet ustensile du jus, par exemple, bouillant, provenant du sacrifice, minaïn, d'où sait-on qu'il faut aussi le frotter et le laver, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, nous lisons, selon Rashi, Asherbo Yishaver. C'est-à-dire du fait que le Passouk juxtapose le terme « bo » en lui au terme de « yishaver » sera brisé, nous pouvons l'interpréter en omettant le mot « mevushal »,« tevushal ». Donc, le Passouk sera interprété de la manière suivante. Celui dans lequel a été la viande du sacrifice, s'il s'agit d'un ustensile d'argile, il sera brisé. De là, nous apprenons que l'ustensile dans lequel on a versé du sacrifice bouillant, il faudra le frotter, le laver s'il s'agit d'un ustensile de cuivre et le briser s'il s'agit d'un ustensile d'argile. Ba'er rami barchama, telao be'avir tanur, s'il a suspendu la viande du sacrifice dans l'espace du four pour le cuire, mais il n'a pas touché les parois du four, mahu, qu'en est-il? Abishul ou bilua ou dekapidra chamana, est-ce que la Torah a été exigeante lorsqu'elle a exigé de frotter le laver l'ustensile uniquement si on a cuit dedans et la viande du sacrifice ou son jus s'y est imprégné? Et donc dans le cas où la viande a été simplement suspendue dans le four, donc rien ne s'est imprégné dans le four, il n'y aura pas besoin de le briser s'il s'agit d'un four en argile. Odilma, ou bien Abishul Belobiloa, la Torah a été exigeante même lorsque simplement la viande du sacrifice a été cuite, même sans que l'ustensile a absorbé de la viande du sacrifice. Il faudra donc le briser, même s'il a été simplement suspendu dans l'espace du four. L'agma répond à Rava, Tashma, viens écoute une preuve de notre Mishnah. Notre Mishnah dit, Echad shebishelbo, vechad sheira le tocho roteach, soit s'il a cuit dedans la viande du sacrifice, soit même s'il a simplement versé le jus, par exemple, bouillant, provenant du sacrifice, il faudra les frotter et les laver. Nous voyons donc, comme nous l'avons vu précédemment, que même si l'ustensile a simplement absorbé de la viande du sacrifice, même si on n'a pas cuit dedans la viande de sacrifice, quand même, il faut le frotter et le laver. Nous voyons donc que la Torah est exigeante même lorsque les deux conditions ne sont pas remplies. Nous pouvons donc déduire de là que si dans cet ustensile on a simplement cuit la viande du sacrifice mais l'ustensile n'a rien absorbé du tout, il faudra aussi le frotter et le laver. L'agma répond, Biloua belo bishoul, si l'ustensile a absorbé de la viande du sacrifice même sans cuisson, lokam evaelan, nous ne nous sommes pas posés de questions à ce sujet, car le fait que la viande du sacrifice est imprégnée dans l'ustensile, cela nécessite une action, au moins ébouillantée. Nous pouvons comprendre que la Torah exigeait quelque chose de spécial, c'est le fait de le frotter, de le laver, ou de le briser s'il s'agit d'un ustensile d'argile. Kikam eva elan, mais quand est-ce que nous nous sommes posé la question? C'est dans le cas de Bishul Belo Biloua, dans le cas d'une cuisson sans absorption. En général, il n'y a rien besoin de faire. La question s'est posée, est-ce qu'ici la Torah a été exigeante et exige aussi de le frotter, de le laver. Donc finalement, Maï, qu'en est-il? L'agma répond, Tashma, viens écoute une preuve de l'enseignement suivant. D'Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Tanur Shel Mikdash, le four qui se trouvait dans le sanctuaire, Shel Mater Etaya, était en métal. Alors l'agma comprend que la raison pour laquelle il est en métal, c'est parce qu'il faut le frotter et le laver. S'il avait été en argile, il aurait fallu à chaque fois le briser lorsqu'on a cuit dedans la viande du sacrifice, même si celle-ci a été simplement suspendue dans le four. Veis al kadatach, et s'il te vient à l'esprit que bishul belo biloua lo kapid, que la Torah n'a pas été exigeante dans le cas d'une cuisson sans absorption, ni avid shel cheres, on n'avait qu'à le faire en argile. L'agma répond, kivan diika shiare menachot, puisqu'il y a les restes des offrandes à base de farine, de afiatan betanur, qu'il faut cuire dans un four, et donc sont collés sur les parois du four, Veika bishul biloua, il y a donc la cuisson et l'absorption, étant donné qu'il y a de l'huile dans les offrandes à base de farine. Avdinan shel materhet, on a confectionné le four du sanctuaire en métal pour qu'on puisse se contenter de le frotter, de laver, sans avoir à le briser à chaque fois qu'on a cuit dedans les restes d'une offrande à base de farine. Mais toujours est-il qu'il est possible qu'en suspendant la viande du sacrifice dans le four, même s'il avait été en argile, il n'aurait pas été nécessaire de le briser. Hahu tanura de atruba tichaya. Il y a un four qu'on a enduit de graisse animale pour cuire ensuite du pain. Ainsi, ce pain aurait un goût de viande. Asra Rabba Bara Ilai. Rabba Bara Ilai a interdit d'utiliser ce four. Les michla, les rifta, les olam. Donc, il a interdit de consommer du pain cuit dans ce four pour toujours, même si on l'a réchauffé plusieurs fois, va filou bemilcha, et il a même interdit de manger ce pain avec du sel, dilma atel le michla bekutra, de peur qu'on le mange avec un condiment à base de lait. C'est-à-dire, puisque nous voyons que lorsqu'on a cuit de la viande à sacrifice dans un ustensile d'argile, il faut le briser, nous apprenons de là qu'il est impossible de faire sortir ce qu'il a absorbé, même en l'ébouillantant plusieurs fois. De là, Rabba Bar Ilai a appris que si on a enduit un four avec de la graisse animale, il est impossible de faire sortir ce que ce four a absorbé. Par conséquent, chaque fois qu'on cuira du pain dans ce four, il aura un goût de viande. Il est donc interdit de le consommer avec du lait. Et étant donné qu'il n'y a pas de signe sur ce pain, on ne peut pas savoir qu'il a un goût de viande et qu'il est interdit de le consommer avec du lait. Il est même interdit de le manger avec du sel. Donc finalement, tout pain cuit dans ce four est interdit. Mais Tivé, on a opposé à Rabba Baraïlaï la braïta suivante. La braïta dit « En lachin et aïssa bechalav » Il est interdit de pétrir de la pâte avec du lait, « Vim lach » Et s'il a pétri de la pâte avec du lait, « Quand la pâte koula asura » Tout le pain est interdit. Donc, il est même interdit de le consommer avec du sel, « Mipne hergel avera » De peur qu'il arrive à transgresser une interdiction de consommer ce pain avec de la viande. « Kayotsebo » De même, « En tachin et atanur be'alia » Il est interdit d'enduire le four avec la graisse provenant de la queue d'un animal comme un mouton, veim tash, et s'il a enduit le four avec cette queue, donc avec la graisse, kolapat kula asura, tout le pain est interdit, c'est-à-dire tout le pain cuit dans ce four est interdit. Il est interdit de le consommer avec du sel, de peur qu'on le consomme avec de la viande, comme nous l'avons expliqué précédemment, ad sheasik et atanur, jusqu'à ce qu'il réchauffe le four avec un foyer, de manière à détruire entièrement cette graisse. En tout cas, nous voyons dans cette braïta qu'il est possible de détruire la graisse absorbée par un four lorsqu'on réchauffe ce four par un foyer, contrairement à ce qu'a dit Rabba Baraïlaï. La Gemara conclut, Tchouvta de Rabba Baraïlaï, c'est une réfutation de l'opinion de Rabba Baraïlaï, Tchouvta, c'est une réfutation définitive. Donc nous voyons que même si en général on ne peut pas faire sortir d'un ustensile d'argile ce qu'il a absorbé, mais si on le fait chauffer par un foyer, ce qu'il a absorbé disparaîtra. Nous avons fini sur le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadehe. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadevav. Nous commençons Daf Tzadehe Amudbet à la cinquième ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent que la Torah exige de frotter et de laver, donc d'ébouillanter des ustensiles en métal dans lesquels on a fait cuire de la viande d'un sacrifice, et ce parce que nous considérons que ces ustensiles ont absorbé de la viande d'un sacrifice et il faut les faire disparaître. La Torah a exigé de le faire d'une manière spéciale, comme la Gemara le décrira par la suite. Cependant, s'il s'agit d'un ustensile d'argile, la Torah exige de le briser. De là, la Gemara déduit dans Maseret Psachim Daf Lamed Amudbet et dans Maseret Avodazara Daf Lamed Gimel Amudbet qu'il est impossible de faire sortir d'un ustensile d'argile ce qu'il a absorbé si on l'ébouillante. Rabba Baraïlaï a poursuivi cet enseignement et il a déduit que même si on fait brûler par un foyer un four qu'on avait enduit avec de la graisse animale, quand même, il est impossible de faire disparaître de ce four d'argile ce qu'il a absorbé, il est donc interdit de l'utiliser. La Gemara a réfuté son opinion à partir d'une braïta de laquelle nous voyons que si on fait chauffer le four qu'on avait enduit avec de la graisse animale en y faisant brûler un foyer, il est permis d'utiliser ce four car nous considérons que la graisse qu'il y avait dans ce four a disparu. Alors la Gemara demande Amar le Ravina le Ravashi. Ravina a posé la question suivante à Ravashi, Vechi me'achar de'itutav Rabba Baraïlaï, puisque l'opinion de Rabba Baraïlaï a été réfutée. Donc il y a une possibilité de faire disparaître ce qu'un ustensile d'argile a absorbé. Amai Amar Rav, pourquoi est-ce que Rav dit que des rotes bapesach yishavrou, des casseroles dans lesquelles on a fait cuire du chametz, il faudra les briser lorsque vient Pessah, car selon lui, il est impossible de faire sortir ce que ces casseroles ont absorbé, puisque finalement il est possible de le faire comme nous l'avons expliqué. Il devrait être possible de mettre ces casseroles dans un four, dans un foyer, et ainsi faire disparaître le chametz. Il n'aurait pas été nécessaire de les briser. Amarle, Ravashi lui répond, Rav Mokila, nous lisons selon la Shita Mkubetset Lehaï, Rav établit cette braïta qu'on avait opposé à Rabba Baraïlaï, Bechel Matechet, dans le cas où il s'agit d'un four en métal. Effectivement, puisqu'il s'agit d'un four en métal, en le faisant chauffer par un foyer, tout ce qui était absorbé dans ce four a disparu.
Mais s'il s'agit d'un four en argile, il est impossible de faire disparaître ce qu'il a absorbé, et c'est pourquoi, donc, selon Rav, il faut briser les casseroles dans lesquelles on a cuit du chametz lorsque vient Pessah. Vibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Betanur shel cheres, toujours pourrais-je te dire que le four dont parle la Braïta est un four en argile, comme cela se fait habituellement. Donc, l'opinion de Rabba Bar Ilai a été réfutée. Cependant, zé, celui-ci, le four, hesekomi bifnim, il est chauffé par l'intérieur. Donc, il est chauffé à rouge par l'intérieur en y faisant brûler un foyer. Par conséquent, ce qu'il a absorbé a disparu. Vezé, tandis que celui-ci, les casseroles, hesekomi bachutz, le fait de le faire chauffer sera de l'extérieur, car on ne fait pas de foyer dans la casserole. C'est pourquoi ce que ces casseroles ont absorbé n'ont pas disparu, il faut donc les briser. La Gemara demande « Vini avid asakami bifnim » On n'a qu'à faire brûler un foyer dans ces casseroles et ainsi faire disparaître le chametz qu'elles ont absorbé. La Gemara répond « On ne peut pas le faire et d'ailleurs on ne peut pas compter dessus car « Chayis alayhu de mitbaré » Il risque de ne pas le faire convenablement car il aura pitié de ces casseroles de peur qu'elles éclatent car finalement elles n'ont pas l'épaisseur du four et finalement elles ne sont pas étudiées pour y faire brûler un foyer. Il car c'est pourquoi haïkouvia, ces espèces de tuiles qu'on fait chauffer par le feu sur lesquelles on fait cuire du pain, et c'est comme ibachutsu, il est donc chauffé par l'extérieur, ve'asir, il sera interdit. C'est-à-dire on ne pourra pas le garder pour Pessah, car d'une part il a absorbé du chametz, d'autre part il n'est chauffé que de l'extérieur, et on ne peut pas compter sur le fait qu'il le fasse chauffer par l'intérieur, car il craint de les briser.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf HaYomi quotidiennement en vidéo.